France Info.
Bonsoir à tous. Peut-on en 2 semaines d'internat, de séjour de rupture, remettre dans le droit chemin des adolescents proches de la délinquance? C'est l'expérience menée à Nice. Gabriel Attal, le Premier ministre, était là ce matin. Éclairage de notre expert François Dubé, le sociologue de l'Université de Bordeaux, sociologue également à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste d'éducation. Personne n'imposera à qui que ce soit l'aide à mourir. Catherine Vautrin, elle, la ministre de la Santé, tente de rassurer en ouverture de son audition devant la commission spéciale de l'Assemblée sur la fin de vie. C'est un rendez-vous avec tous les Français, dit encore la ministre, qui sait à quel point le sujet est sensible, notamment chez les soignants, début d'un très long parcours parlementaire qui pourrait durer 2 ans. Et puis, les Juifs du monde entier fêtent Pessah, la Pâque juive en Israël, entre pensées pour les otages et menaces de l'Iran. Nous serons à Jérusalem dans un instant où une chaise vide devrait être laissée pour les otages, toujours retenus à Gaza. Des informés ce soir qui sont Patricia Alémonière, grand reporter spécialiste des questions internationales, François Ehrenwein, éditorialiste politique et responsable éditorial de l'hebdomadaire protestant Réforme.
Bonsoir.
Et Jonathan Boucher-Peterson qui sera là dans un instant, éditorialiste politique à Libération. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. L'internat obligatoire pour tenter de remettre sur les rails les perturbateurs dans les établissements scolaires. Gabriel Attal visitait donc le premier ce matin à Nice et il vante les vertus de ce qu'il appelle ses séjours de rupture pour les jeunes proches de la délinquance qui, dit-il, ont besoin d'un cadre à cause, je le cite encore, de leur mauvaise fréquentation. L'expérience est donc menée avec des profs, des éducateurs, des gendarmes. Le temps des vacances scolaires, alors évidemment ça a un coût, 60 000 euros le séjour, ici dans les Alpes-Maritimes. Et pour Gabriel Attal, c'est de la bonne dépense.
Pour moi, c'est un investissement. Je préfère dépenser de l'argent pour des internats qui évitent à des jeunes de partir à la dérive et de devenir délinquants, plutôt que de devoir dépenser beaucoup plus ensuite pour réparer la délinquance, en créant des places supplémentaires dans des centres éducatifs fermés ou en réparant des dégâts qui ont été commis sur des équipements publics ou privés d'ailleurs. Donc j'assume totalement, pour moi c'est de la bonne dépense. Et c'est compatible avec l'état de nos finances publiques. Il y a 50 000 places qui sont ouvertes, c'est-à-dire qui sont déjà financées et qui sont vides. Donc il faut qu'on les utilise davantage.
Alors, tout ça suscite pas mal de scepticisme chez les enseignants et chez les chefs d'établissement. Pas convaincus, notamment le SNPDEN, qui regroupe le syndicat qui regroupe les chefs d'établissement. Un séjour de rupture pour les jeunes, pourquoi pas, mais, dit Nicolas Bray, proviseur du lycée Fénelon et responsable donc du SNPDEN.
On organise des séjours de rupture pour les jeunes, pourquoi pas? La question qui se pose nécessairement, c'est qu'est-il fait dans leur quartier quand ils reviennent chez eux? Est-ce que le tissu associatif est suffisamment important? Est-ce qu'il y a des dispositifs? Est-ce que l'administration est suffisamment présente dans les quartiers? Enfin, un séjour de rupture pour les jeunes, pourquoi pas? Se pose la question à plus long terme du discours du Premier ministre sur les internats et de ce qu'il souhaite faire avec les internats au plus long cours.
Bonsoir François Dubé.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue à l'Université de Bordeaux, à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de toutes ces questions d'éducation. Quel regard vous portez, vous, sur cette expérience en 2 semaines? Que peut-on déclencher chez des adolescents comme ça?
Moi, j'ai d'abord le sentiment qu'on est dans un climat de panique morale, c'est-à-dire que toutes ces conduites extrêmement violentes, ressassées sans cesse, etc., créer un sentiment d'urgence, d'anxiété, de peur, qui fait qu'il faut répondre. Et donc, on a des réponses qui s'accumulent, on va réprimer les familles, on va créer des internats, on va créer des centres fermés, etc. J'ai le sentiment qu'on est dans une gesticulation, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut trouver des solutions, mais là, on est dans les déclarations de... On va restaurer l'autorité, ça ne veut pas dire grand-chose de restaurer l'autorité, ça se décrète pas comme ça. Donc, je suis un peu mal à l'aise pour juger toutes ces mesures qui sont peut-être bonnes, qui sont peut-être pas bonnes. On n'a pas d'évaluation, on ne sait pas comment ça se passera. Est-ce qu'on sera obligé d'y aller? Est-ce qu'il faudra l'accord des parents? Est-ce que c'est une décision judiciaire? Qu'est-ce qui se passe quand on met des enfants qui ont les mêmes difficultés, les mêmes conduites agressives ensemble dans les internats? Enfin, tout ça donne le sentiment de répondre à une panique morale, à une peur, à une angoisse. Et j'ai, comme beaucoup d'enseignants, l'impression qu'on est dans de, dans de la rhétorique politique et pas véritablement dans des solutions, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a eu les émeutes de juin-juillet, puis l'assassinat d'un enseignant, puis les harcèlements qui se terminent dans le sang, etc. Donc, il y a une sorte d'accumulation qui fait qu'il faut répondre. Voilà. Mais je suis bien incapable de savoir très précisément ce que donneraient ces mesures, etc. Il en faut, mais cette espèce de déclaration de principe me paraît pas véritablement à propos.
Alors, on entend toutes vos réserves sur le contexte général. Je vous cache pas que j'espérais un éclairage quand même aussi de compte tenu de vos compétences et de votre expertise, notamment parce que ces internats, c'est pas vraiment nouveau. Il y a ce qu'on appelle déjà des internats tremplin, avec 10, 12 collégiens, lycéens, considérés comme hautement perturbateurs, on va dire, pour reprendre les termes de l'éducation nationale. Est-ce que vous avez, vous, un retour sur ces expériences-là?
On n'a pas véritablement d'évaluation de ces dispositifs, de même qu'on n'a pas eu d'évaluation sur des centres fermés qui sont beaucoup plus rigoureux. Donc, on ne sait pas véritablement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Soit on est du côté de la justice, de la criminalité juvénile et des mesures très coercitives, soit on est du côté des mesures éducatives et on ne sait pas trop. Mais a priori, il n'y a pas à s'y opposer, évidemment. Mais encore faut-il savoir dans quelles conditions, quelle durée. Si c'est 15 jours, comme c'est proposé, de rupture pour sortir de son quartier, de son collège, de ses problèmes de harcèlement, de bande, etc., on peut ne pas être forcément très, très optimiste.
Vous restez avec nous, François Dubé. On va faire réagir nos informés, évidemment, sur tout ça, juste après le fil info, puisqu'il est 20h10, Stéphane Milhomme.
L'échec ce soir des négociations chez les contrôleurs aériens. Le syndicat majoritaire de la profession attend une mobilisation record jeudi prochain, 25 avril, synonyme d'annulation de vol en France. Les aiguilleurs du ciel dénoncent une réforme de leur service, la restructuration de la navigation aérienne. Le chanteur Kenji Girac est hors de danger, mais il reste hospitalisé à Bordeaux après avoir été blessé par balle au thorax. C'était sur un terrain de gens du voyage dans les Landes et il assure être le seul responsable de sa blessure. Mais une enquête de gendarmerie est bel et bien en cours. Volodymyr Zelensky remercie Joe Biden au téléphone pour son soutien indéfectible à l'Ukraine. Le président américain lui promet d'envoyer rapidement de nouvelles aides militaires importantes. Et cela quelques jours après le vote du Congrès sur une enveloppe de près de 61 milliards de dollars. Et puis la Côte d'Azur touchée par des chutes de grêle cet après-midi et pour la deuxième fois en quelques jours. La grêle est tombée notamment sur la promenade des Anglais à Nice, à Villeneuve-Loubet ou encore Saint-Paul-de-Vence. Ces fortes précipitations ont perturbé temporairement l'aéroport de Nice entre retard et annulation de vol.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On est en compagnie ce soir de Jonathan Boucher-Peterson de Libération, que je salue. Patricia Lémonière est là, grand reporter. François Ernenwein, responsable éditorial de l'hebdomadaire Réforme. Et avec nous, le sociologue François Dubé. On a commencé à évoquer ces internats. Qui veut réagir à la fois sur le contexte que soulignait, que décrivait François Dubé, François Ernenwein, je sens que vous avez...
Il me semble qu'il y a une demande sociale pour que le gouvernement ne reste pas inerte. Les faits ont été rappelés par François Dubé très bien. Il y a une accumulation d'événements qui donne le sentiment que la violence s'est installée à l'école et que si le gouvernement ne faisait rien, on dirait « mais il ne voit pas ce qui se passe ». Là, il a choisi d'agir. La bonne nouvelle dans le discours...
Attendez, quand vous dites le sentiment, c'est que vous ne partagez pas le diagnostic non plus.
Non, pas vraiment. Enfin, je ne suis pas... Encore une fois, laissons le temps à l'expérimentation. Mais ce qui me frappe au fond, c'est... On peut trouver ça excessif, pas forcément adapté, mais Gabriel Attal conserve un discours républicain. Il a dit « la République contre-attaque » quand il était à Viry-Châtillon. Ça veut dire qu'il met en scène quand même des dispositifs, non pas en accusant la pente démagogique des populistes, mais en essayant d'agir peu ou prou pour que les choses s'améliorent à l'école. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de gros reproche à lui faire d'aborder la question comme ça. Mais je me pose une question plus grave sur le plan institutionnel. Mmh. On a une ministre de l'Éducation, et c'est le Premier ministre qui est en charge de l'éducation. Le président de la République s'occupe de tous les dossiers de l'éducation, sauf éventuellement celui de la violence scolaire. Je trouve, sur le plan institutionnel, il faut réécrire la Constitution. Il faut dire, le ministre de l'Éducation s'occupe des violences scolaires et le président de la République s'occupe de tout le reste. C'est, sur le plan du fonctionnement des institutions, je trouve ça un chaos et une incohérence monumentale.
Bon, il y avait plusieurs ministres dans ce déplacement à Nice. Il y avait également le garde des Sceaux qui était là, effectivement.
Oui, mais il y avait la ministre de la...
Oui, mais reste au deuxième rang avec le préfet.
Non, mais fondamentalement, moi.
Jonathan Boucher-Petersen.
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on réponde à. Enfin, ce qui est compliqué, en fait, c'est de partir du principe que tous les experts ou les gens qui observent disent le diagnostic de base est un peu surévalué, c'est-à-dire explosion de la violence, ça justifierait une réponse en urgence. Là, on a l'impression qu'on fait semblant de découvrir un constat assez important, c'est-à-dire une montée, ou en tout cas une difficulté à faire preuve d'autorité ou à faire accepter l'autorité à l'école, mais pas à l'école, dans l'ensemble de la société, chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Il y a quelque chose de beaucoup plus large, en fait, qui se questionne à travers ça. Et je trouve qu'on arrive vraiment par le petit bout de la lorgnette, de dire on va faire la réponse presque de facilité, de dire on gonfle un peu les muscles, on va rétablir l'ordre, on va restaurer l'autorité comme si ça se décrétait. Et je trouve que sur ces questions-là, de dire que la République est de retour, la République, c'est pas que ça, ou ça ne doit pas être que ça. C'est-à-dire si la République, quand elle est de retour dans le cadre scolaire ou dans le cadre de comment faire des citoyens de jeunes publics, elle n'a que le mot autorité à la bouche, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il faut être capable.
Alors, peut-être qu'il y aurait des discussions.
La jeunesse, telle qu'elle a été traitée par ce gouvernement, c'est le service national universel, le permis de conduire à partir de 17 ans. Si vous trouvez une autre mesure
structurante, il y aurait sans doute à dire.
Oui, mais qui est pareil, la communauté éducative est très divisée. On sait très bien que ça a plutôt tendance à libérer des bons élèves du ralentissement que peut susciter la présence d'élèves avec des niveaux plus divers, et que c'est plutôt une stigmatisation et une assignation des élèves, sachant que ça se fait dans un corps, l'école, qui est absolument délabré, qui est paupérisé. Donc on fait porter à l'école énormément de renoncements ou de petites lâchetés d'un certain nombre de politiques publiques, mais on peut pas dire autorité décrétée comme ça parce que c'est dans le sens du vent, parce qu'on veut faire sens à quatre faits divers qui sont plus dramatiques les uns que les autres, mais qui ne décrivent pas une nouvelle réalité orange mécanique de la société française. Et je pense qu'à ce jeu-là, à chaque fois que Gabriel Attal dira autorité, Jordan Bardella dira ordre, et à la fin, on sait qu'il gagne la bataille idéologique.
François Dubé, je vois que vous voulez réagir parce que Patricia Alimonière n'a pas... Alors François Dubé,
je réagirai après.
Je vous voyais réagir.
Non, mais je crois que le problème pour le gouvernement, c'est que chaque fait divers... Fait monter l'Assemblée nationale tout seul.
Ça oui.
Chaque fait divers donne son cadre d'interprétation. C'est les banlieues, c'est les jeunes, c'est les immigrés, c'est le désordre, etc. Bon. Il y a aussi des réponses qu'on aurait pu imaginer. Je veux dire, dans les quartiers qu'on appelle les plus défavorisés, l'éducation populaire a disparu, les mouvements associatifs ont disparu. Il y avait la République, c'était pas que les instits et que la police. C'était aussi des mouvements d'éducation populaire qui ont été abandonnés et qui sont devenus des prestataires de services, etc. Donc, on pourrait imaginer, je ne suis pas naïf, je sais bien qu'il y a des gamins qui devront avoir rencontré vraiment l'autorité, mais il est évident qu'il y a une sorte de vide qui s'est installé entre l'école, la police, l'État, et que d'une certaine manière, cet appel à l'autorité, c'est une manière de remplir le vide politique.
Chaque fait divers fait monter le RN. Vous dites, la question, c'est comment on répond. Alors j'entends toutes ces structures dont vous parlez et qui ont quitté la place, en fait. Patricia Alimonière.
Moi, ce que je dirais, c'est qu'on fait là encore une nouvelle fois une réponse qui est très, malgré tout, qui s'appuie sur le répressif. Qui s'appuie sur les premières... Gabriel Attal est dans une forme de cohérence. Il avait dit « tu casses, tu répares ». Donc là, effectivement, on est dans la même cohérence. On a un problème d'autorité à l'école. Eh bien, on va vous mettre dans des pensionnats pendant 15 jours. Je crois que le problème est beaucoup plus vaste. En fait, effectivement, comme on vient de le souligner, c'est un problème global, social, qui n'est pas que pour les jeunes, qui est pour les adultes. Quand vous sortez dans la rue, vous pouvez vous faire agresser parce que vous... vous croisez quelqu'un pratiquement aujourd'hui. Il y a une capacité de violence et de pulsion violente dans la société qui ne va pas se régler parce qu'on va aller 15 jours en internat. Je pense qu'il faut d'abord avoir une volonté d'adhésion. Et je ne crois pas, après avoir écouté les jeunes que vous allez sûrement nous faire écouter dans ce collège, dans cet internat, qu'ils adhèrent au projet. Comment participer à une mission et se laisser prendre par cette mission si on n'adhère pas au projet? Si c'est pour être pendant 15 jours, contre sa volonté, dans un centre, dans un internat, et après pour se retrouver plongé dans un quartier où on se retrouve avec les mêmes potes, ça ne change rien. Enfin, je veux dire, c'est une réponse qui nous est pratiquement, qui est faite là pour nous rassurer les parents et rassurer la société. Alors, je crois que le problème est beaucoup plus vaste et pose derrière ça un autre problème. C'est un problème de financement global, des moyens qui ont quitté des quartiers, qui ont quitté aussi des écoles. Et le problème ne se pose pas que dans les familles déshéritées. Il se pose aussi dans les familles, j'ai envie de dire, de la classe moyenne et de la classe supérieure. Il y a un relâchement de tout ce qui est l'autorité et il faut qu'on s'interroge socialement sur cette... Vous savez, quand on permet à un président de la République d'être claqué, giflé lors d'une manifestation extérieure, d'un rassemblement, tout est possible. Et comment voulez-vous qu'on puisse incarner une autorité si même on peut se permettre et après, au bout de 3 mois, on ressort de prison? Comment voulez-vous qu'une...
Il y a eu des poursuites.
Il y a eu 6 mois. Oui, ben c'est pas, mon avis, c'est pas 6 mois qui vont, c'est comme les 15 jours de l'internat.
Donc, pour le coup, vous réclamez de l'autorité.
Je réclame, non, une réflexion globale sur ce qui manque dans la société, globalement, pour repenser ce rapport. Et je pense qu'il faut une adhésion sociale. Sans adhésion, on n'y arrivera pas.
Comment on requiert cette adhésion? Évidemment, c'est le...
Non, mais Manuel Valls, qui pour le coup n'est pas un gauchiste patenté, parlait d'apartheid social et territorial, en tout cas, pour dire que le problème était par nature complexe. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'excuser des actes de délinquance ou d'excuser la violence, mais c'est d'essayer d'expliquer ce qui crée des poudrières ou ce qui crée des contextes où clairement, l'idée qu'on fonctionnerait tous avec les mêmes règles, ça peut se décréter, mais c'est mieux quand on a le sentiment de le vivre au quotidien. Ça vaut sur des... Et encore une fois, il n'y a pas une seule solution qui serait la solution magique, mais ça passe par la réaffirmation de valeurs dans lesquelles, non pas on oblige les gens à se fondre, mais dont on explique en quoi elles sont des valeurs communes qui doivent servir à tous. Ça vaut pour la laïcité, ça vaut pour la capacité à faire société. Il y a évidemment quelque chose de plus d'explication sociologique de longue période sur l'individualisme ou l'individualisation de la perception de son existence. Avant, c'était assez confortable. François Dubé évoquait l'éducation populaire, mais on peut aussi évoquer dans un certain nombre de municipalités le rôle du parti communiste, le communisme municipal, qui structurait aussi la vie dans la cité, d'une certaine manière. Là, aujourd'hui, c'est vrai que le délabrement et l'absence par paupérisation de l'école, par paupérisation du tissu associatif, par désertion du service public, enfin, tout ce qu'on observe depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, rien n'est vraiment nouveau. Simplement, ça fait un cocktail qui est compliqué. Si en plus, effectivement, il y a non pas les réseaux sociaux comme une explication, mais comme un accélérateur de particules et un rapport à la violence qui est peut-être plus décomplexé, dans un contexte où la verticalité, celle du prof, celle de l'école, celle du parent, est contestée, contestable, parfois dans certaines circonstances. Tout ça, voilà, il faut refaire société, mais ça ne se décrète pas simplement en arrivant en gonflant le torse pour répondre en gros à des gens qui s'inquiètent de voir que tout fout le camp ou qui, quand ils sont un peu excessifs, parlent d'une France ensauvagée, décivilisée, orange mécanique. Enfin, tout ça ne veut pas dire grand-chose. Fondamentalement, si on veut faire société, c'est quand même plus par le Macron de 2017 et le discours de l'émancipation qui donne la possibilité à chacun de saisir sa chance. Après, chacun est responsable. Si on décide de basculer dans la délinquance, la justice et la police ont vocation à être au rendez-vous. L'idée, c'est pas d'être dans le laxisme. Mais si la seule réponse, c'est on met des peines de prison plus tôt, plus fort, et que la prison, ça reste une espèce d'école du vice dans laquelle rien ne se passe, j'ai peur que ça s'appelle mettre le couvercle sur une cocotte minute.
Allez, on va refermer ce dossier. Pardon, merci. Merci François Dubé. On va passer le fil info et puis on parlera de la fin de vie. 20h22, Stéphanie Milhomme.
À Grande-Synthe, dans le Nord, le mineur agressé le week-end dernier a été interpellé. La procureure de Dunkerque ne donne pas plus de détails pour l'instant. Ce jeune est l'un des deux cousins mis en examen pour assassinat après l'agression mortelle de Philippe Kopmann. C'était le 16 avril dernier. Après les propos polémiques de Guillaume Meurice sur France Inter, les deux plaintes pour provocation à la haine antisémite sont classées sans suite. Selon la justice, les faits ne sont pas suffisamment caractérisés. En octobre dernier, l'humoriste avait qualifié à l'antenne le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de sorte de nazi, mais sans prépuce. La CGT dénonce un passage en force permanent du gouvernement dès le 1er juillet. Il fixera les nouvelles règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi, faute d'accord entre les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Ces mesures plus restrictives visent à accélérer le retour rapide en emploi de certaines personnes indemnisées. À la SNCF, la menace d'une grève des contrôleurs le mois prochain semble écartée. Les quatre syndicats représentatifs signent un accord avec la direction. Ils portent sur les fins de carrière des cheminots, retraite anticipée pour les cheminots ayant occupé des postes à la pénibilité avérée.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Jonathan Boucher-Peterson est là pour Libération, Patricia Lémonière, spécialiste des questions internationales, et François Ehrenwein, responsable éditorial de l'hebdomadaire Réforme. Personne n'imposera à qui que ce soit l'aide à mourir. Ce sont les premiers mots de Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, qui tente de rassurer en ouverture de son audition devant la commission spéciale de l'Assemblée sur la fin de vie. C'est en cours en ce moment à l'Assemblée. C'est un rendez-vous avec tous les Français, c'est ce qu'elle dit également. Un sujet évidemment très sensible, et elle le sait notamment chez les soignants. Le texte a entamé un long parcours parlementaire qui va durer potentiellement 2 ans, et avec des auditions présidées par l'ancienne ministre Agnès Firmin-Lebaudeau, qui a préparé le texte et qui était ce matin l'invité de France Info, là encore, pour rassurer.
Cette loi, c'est-à-dire cette possibilité qui sera offerte lorsque la loi sera votée, n'oblige personne. D'abord, elle n'oblige pas les médecins, elle n'oblige pas non plus nos concitoyens, j'allais dire les plus vulnérables, à demander l'aide à mourir. C'est surtout pas ça l'objet.
Les lois créent des usages. C'est ça un petit peu la crainte
des opposants. Oui, mais je le répète, c'est offrir une possibilité dans des conditions très restrictives. Très restrictive, et je le redis, cette loi n'oppose pas ni soins palliatifs à l'aide à mourir. Elle ne retire en rien la qualité, j'allais dire, de l'accompagnement proposé dans les unités de soins palliatifs. C'est bien, dans des conditions très restrictives, il ne faut jamais les oublier, que nous allons permettre une certaine possibilité, dans certains cas, pour pouvoir bénéficier de l'aide à mourir.
Alors, on a beaucoup entendu ces dernières semaines l'inquiétude de nombreux soignants. On va écouter Ségolène Perruccio, puis on en débat juste après, médecin en soins palliatifs et vice-présidente de la Société française d'accompagnement et soins palliatifs.
L'aide active à mourir n'est pas un soin. L'aide active à mourir supprime le malade. Le soin, c'est quelque chose qui doit avoir un effet positif pour le malade. Donc, nous nous opposons à toute évolution de la loi qui impacterait la relation de soins. Parce qu'aujourd'hui, un patient qui vient me voir en me disant « je voudrais mourir », je m'assois à côté de lui, je montre comment moi je peux vous aider. Et si demain, je dois lui dire « alors est-ce que vous répondez bien aux critères ?», je n'aurai plus la place pour cette phrase « comment je peux vous aider ?». Vous ne pouvez pas à la fois dire « votre vie en vaut la chandelle et j'ai envie de tout donner pour prendre soin de vous, quel que soit votre état, y compris dans des états très dégradés », et d'un autre côté, lui faire passer le message que c'est vrai que dans sa situation quand même, il vaudrait peut-être mieux qu'il meure et je vais l'aider.
Alors, François Ehrenwein, il y a une espèce de paradoxe dans tout ça, et on a bien compris que c'est un débat qui va prendre du temps, mais paradoxe entre le fait que l'opinion réclame cette mesure, c'est ce que dit aussi Catherine Vautrin, une certaine impatience dans notre société d'avoir ce débat, notamment ce débat. Et puis, les soignants, c'est surtout eux qu'on a entendu ces dernières semaines, qui disent « nous, on n'est pas là pour donner la mort, mais pour soigner ».
Le débat n'est pas seulement entre l'opinion et les soignants, c'est un débat éthique fondamental, et je trouve que les voies et les moyens choisis par le gouvernement au Parlement sont des voies et des moyens assez intéressants. Il y aura 2 mois, là, de discussions approfondies et de consultations massives. Je me réjouis que ça se passe comme ça. Parce que contrairement à ce que dit parfois Catherine Vautrin ou d'autres, il y a des zones d'ombre dans cette loi.
C'est-à-dire
Par exemple, moi, l'exemple qui me frappe, c'est quand le pronostic vital est engagé à moyen terme. Qui de nous peut dire quand commence le moyen terme? Qu'est-ce que c'est le moyen terme? 6 mois, 2 ans. C'est plein d'ambiguïtés qu'il faudra éclaircir au moment de la rédaction de la loi. Je prends cet exemple parmi d'autres qu'on pourrait trouver. Donc je pense qu'il y a un véritable travail d'affinement, d'approfondissement dans cette législation pour éviter les crispations. Et je pense que la méthodologie choisie à travers cette commission spéciale est une méthodologie intéressante. Tout le monde pourra s'exprimer et au bout d'un moment, le législateur fera son travail.
Jonathan Boucher-Peterson.
Oui, après, c'est pas comme si le débat commençait maintenant.
C'est-à-dire que... Certes, mais il peut se prolonger.
Oui, ça, c'est un petit peu aussi la technique de l'évitement.
Et vous sentez qu'il
a
commencé, sincèrement?
Bah, oui. Ça fait quand même des années. Après, quand on rentre dans le détail de la rédaction, évidemment qu'il faudra se prononcer sur un projet de loi. Mais c'est la responsabilité de l'exécutif, pour le coup, de mettre un sujet sur la table. Dans ces cas-là, on en débattra. Mais lever les incompréhensions ou entendre les positions de chacun, que ce soit les différents corps de la société, religieux, médicaux, aux représentants des malades, oui, il y a eu le comité national d'éthique s'est prononcé. Il y a eu la commission Falorni qui, quand même, a fait aussi énormément d'auditions, même si, comme la perspective de la loi était moins proche, ça a été moins médiatisé. Mais ça va beaucoup être un exercice de répétition de choses qui ont déjà été dites dans un contexte, en plus, où l'opinion est très majoritairement d'accord avec ce droit. Après, ça ne veut pas dire que le diable ne peut pas se nicher dans les détails, ça, évidemment. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux mettre un texte sur la table et que les gens se positionnent. Non, ça me pose problème, ça. Plutôt que deux ans, ça paraît interminable, honnêtement, par rapport à la maturité de l'opinion sur ce sujet-là. Et encore une fois, je trouve qu'il y a toujours un biais, en fait, à dire les soignants, quand on entend les soignants dont le métier est de faire du soin palliatif. Mmh. Évidemment que ces professionnels-là sont particulièrement vigilants ou se sentent un peu contestés, parce qu'il y a toujours cette opposition un peu stérile. Et je pense que c'est important de dégonfler ça en disant c'est ou le soin palliatif ou le droit à mourir dans la dignité, en gros, pour reprendre l'expression. Évidemment que tout ça est un même package qui s'accompagne. Et ce qu'on remet un petit peu au centre, c'est pas de dire je vais venir voir un soignant et c'est le soignant qui pourra plus faire son métier et qui ne sera plus là que pour donner la mort. C'est qu'on remet le patient au centre d'une certaine manière. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines de la médecine, c'est quelle est la volonté du patient. Il y a une réalité qui s'exerce avec des gens qui ou le font de façon clandestine ou le font à l'étranger. Donc au bout d'un moment, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont et essayer d'apporter un peu plus de facilité. Pardon, je suis long, mais c'est des sujets que c'est difficile à traiter en une demi-phrase.
Alors, Patricia, de la manière juste pour amorcer, puis on poursuivra.
Oui, enfin, pour amorcer, comment amorcer justement un sujet qui mériterait une heure de discussion, en tout cas.
L'enjeu du débat qui et des auditions, là, et des deux ans de débat, c'est de... Où sont les points sur lesquels le texte peut évoluer, en fait, c'est ça.
Le texte va cesser d'évoluer, c'est justement pour ça que ça va prendre du temps. On en a défini un des termes, c'était justement le court terme, le moyen terme, qui ne sont absolument pas clairs. Il y a aussi dans ce dossier, il y a aussi tous les soins palliatifs. Il y a tout le renforcement des soins palliatifs qui doit être mis en place. Mais la France reste quand même très, très prudente sur ce terrain-là par rapport aux autres pays. Dans d'autres pays, c'était totalement légalisé. Hein, je parle les Pays-Bas, la Belgique. Dans d'autres pays, c'était dépénalisé. C'est différent. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Enfin, on est quand même très en retard alors qu'on a une appétence sociale, une volonté de la société de bouger. Et on a l'impression qu'il y a une extrême... Alors, je pense qu'il est bon qu'au niveau gouvernemental, on ait été prudent dans l'énoncé de ce texte et qu'il va être travaillé. Mais on a une extrême retenue de nos politiques. On a l'impression que la France est quand même très conservatrice sur ces questions sociales.
Allez, on poursuit cet échange après le point sur l'info, puisqu'il est 20h31 sur France Info. Et bonsoir Thomas Giraudeau.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. De nouvelles règles pour l'assurance chômage dès le 1er juillet. Règles imposées par le gouvernement après l'échec des partenaires sociaux à trouver un accord sur l'indemnisation des travailleurs seniors. L'exécutif reprend la main. Gabriel Attal a déjà annoncé vouloir durcir ces règles, notamment le temps de travail nécessaire pour pouvoir toucher ensuite des allocations. La pagaille attendue dans les aéroports jeudi où le principal syndicat des contrôleurs aériens avance une mobilisation record. Des négociations avec la DGAC et la Direction Générale de l'Aviation Civile ont échoué. Dans les gares, en revanche, la perspective d'une grève des contrôleurs le mois prochain durant les week-ends prolongés s'éloigne. Fait rare, les quatre syndicats représentatifs au sein de la SNCF ont signé un accord. Il améliore le dispositif de pré-retraite au sein de l'entreprise. Après le gel la nuit dernière dans Lyon et la Moselle, en cette période où les bourgeons sortent et où les agriculteurs doivent à tout prix protéger leur culture, un nouveau signe du dérèglement climatique, la grêle, est tombée pour la deuxième fois en quelques jours seulement dans les Alpes-Maritimes. Des vols ont été retardés à l'aéroport de Nice. L'application TikTok Lite dans le viseur de la Commission européenne, elle menace de suspendre dès jeudi une nouvelle fonctionnalité du réseau social. Il rémunère le temps passé à regarder des vidéos sur l'application. Cela menace la santé mentale des utilisateurs de TikTok pour Bruxelles. Et puis c'est toujours un match à part pour le 15 de France. Les Bleus recevront au Stade de France les All Blacks le 16 novembre prochain, en plein cœur de la traditionnelle tournée d'automne. Et toujours à Saint-Denis, le 15 d'Antoine Dupont affrontera également le Japon et l'Argentine.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On débat de ce texte sur la fin de vie qui a entamé aujourd'hui son parcours parlementaire, qui va être très long, on l'a dit, avec Patricia Hélémonière, avec Jonathan Boucher-Petersen de Libération, François Hernwein de Réforme, l'hebdomadaire protestant. Il y a en sous-texte dans tout ce débat, finalement, ce que certains imaginent comme une dérive possible. D'offrir ce droit, cette possibilité-là, pourrait amener une dérive. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous percevez, est-ce que vous croyez à cette dérive? François Hernwein.
À mon avis, il ne faut pas tomber dans le complotisme. Il n'y a pas de mauvaise intention de la part du gouvernement. Mais l'usage qui est fait quand la liberté est consacrée trop largement peut être ambigu. Il y a des enjeux économiques dans les soins palliatifs et la tentation peut
exister. Alors là, il y a un plan d'1 milliard qui est effectivement jugé très, très, très important.
Voilà, oui, mais heureusement qu'il y a cette
offre. D'ici 2034, sur 10 ans.
Oui, c'est le double de la loi et ça me paraît extrêmement important. Je rappelle quand même qu'il y a au moins 20 départements français où les habitants de ces départements n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et si on veut laisser le choix aux gens, il faut que les possibilités de soins existent. Or, c'est une condition nécessaire. Et moi, je pense que le gouvernement, dans son approche, là, a été relativement raisonnable. Il n'est pas porteur d'audace folle. Donc, c'est pas la peine de dire « trembler, la loi va être adoptée ». Et d'ailleurs, à titre d'information, vous le savez sans doute mieux que moi, à l'intérieur des grandes confessions en France, il y a eu des prises de position officielles assez hostiles à l'aide à mourir, mais quand vous regardez la pluralité des intervenants dans les différentes confessions, voyez que les nuances viennent à l'appel. Donc on voit bien que ce débat, il a lieu d'être, c'est bien qu'on discute et c'est bien qu'on cherche à convaincre aussi.
Enfin, c'est bien, effectivement, c'est bien qu'on discute sur l'évolution qui est crainte et qui est agitée d'une société qui se débarrasserait de ses anciens, posons les termes comme ça, effectivement. De ses mourants et de ses anciens, voilà. Et la question se pose, mais je crois que le texte qui était choisi met tellement de barrières et tellement de barrières à cette mesure, et bien que ce n'est pas le sujet de l'agilité. En revanche, je comprends très bien ce que la personne que vous aviez interviewée juste avant, cette soignante, effectivement, ses réserves, parce que elle, son but, c'est d'accompagner dans la mort, dans la dignité, en étant au plus près du malade jusqu'à la fin. Et rien n'empêche effectivement de mener ça, mais moi ce qui me choque aussi beaucoup, c'est dans cet accompagnement, on sait quand même qu'aujourd'hui il y a très peu d'enfants qui ont besoin de cet accompagnement jusqu'à la fin, qui bénéficient de soins palliatifs, que 30%, c'est rien sur le plan national, 50% des adultes, c'est rien. Donc effectivement, je crois que mener un texte qui porte les soins palliatifs en priorité et qui aussi traite effectivement c'est pas l'euthanasie qui a été choisie, hein, comme terme. L'aide à mourir, qui traite de l'aide à mourir avec toutes les restrictions qui sont apportées. Je crois que c'est bien qu'on en débatte et je crois que ce texte devrait pourtant, vu l'adhésion populaire, arriver quand même un peu plus tôt. 2 ans me semble long. 2 ans pour les soins palliatifs, ça me semble long. Et 2 ans pour l'aide à mourir aussi me semble long. Mais peut-être que nos députés veulent...
C'est l'exécutif débattre. Surtout qui est très...
Pourquoi si long d'ailleurs?
Oui, il y a une crainte quand même. Quoi. Et puis il y a une façon de poser le débat qui n'est quand même pas très honnête dans certaines oppositions. C'est-à-dire quand on entend les Républicains aujourd'hui dans un discours très, très conservateur et plutôt dans une logique un peu pro-vie quand même, dans ces franges-là, que ce soit François-Xavier Bellamy ou que ce soit même Éric Ciotti, il y a une façon de jouer avec les peurs là-dessus. Alors que ce n'est pas la première fois qu'il peut y avoir un peu un abaissement du débat public au sein de nos responsables politiques et une maturité de la société. Sur beaucoup de sujets, il y a quand même... qu'il y ait des prudences, qu'il y ait le préalable des soins palliatifs renforcés avant d'aller dans cette bascule, qui est quand même pas vraiment non plus un grand Big Bang, mais qui est plutôt la fin d'une hypocrisie ou d'une grande précarité pour ceux qui voulaient y avoir accès. C'est-à-dire que c'est plutôt la loi qui rattrape le réel, d'une certaine manière. On n'ouvre pas une boîte de Pandore. Et encore une fois, quand on décrit...
C'est une pratique
qui était assez discriminatoire sur le plan social, parce qu'il fallait pouvoir se payer le voyage, ou il fallait pouvoir... c'était plus difficile aussi pour des personnes qui sont isolées ou qui sont pas dans des... Souvent, c'est quand même des... Enfin, moi, je vois, c'est assez rare quand on passe dans des émissions de recevoir en direct des messages de gens qui réagissent. Et je vois que typiquement, voilà, moi, j'ai déjà eu 3 messages depuis qu'on a commencé à aborder ce sujet, de gens qui disent « J'ai été confronté à cette situation, ça a été une immense douleur dans notre famille de ne pas pouvoir compter sur l'État pour franchir ce palier-là. Il faut que le gouvernement avance. » Donc, il faut aussi entendre. Ça veut pas dire que ça devient la norme et que l'ensemble des personnes, ce sera leur façon de mourir. C'est pas du tout ça le sujet. Et encore une fois, on n'arrivera pas dans un hôpital ou au contact de soignants le lundi en disant « j'ai décidé » et la pilule sera donnée ou l'injection le mardi. On n'est pas là-dedans, on est dans un rapport avec...
La loi, il est prévu que les gens expriment clairement leur volonté.
Et la répètent.
Donc c'est une indication quand même des bornes qui sont posées. Ouais. Et moi, je suis d'accord avec cette interprétation, mais je ne veux pas pousser les chicaneries trop loin. Mais je vous repose la question collectivement, comment vous définissez le moyen terme? C'est 6 mois, c'est 2 ans. Catherine Vautrin, je l'entendais à France Inter, avait évoqué 6 mois. Mais l'interprétation
Il y a beaucoup de restrictions.
Ça dépend dans quel état aussi.
On va rappeler, il y a 5 critères. Être majeur, être résident français, la volonté libre et éclairée. Oui. Le pronostic vital engagé, ce sont les médecins qui vont le déterminer, et la souffrance impossible
mais
à soulager.
Mais les médecins témoignent eux-mêmes que déterminer un pronostic vital à moyen terme, c'est de la gnognotte, c'est pratiquement impossible. Entre 6 mois et 2 ans, vous pouvez pas savoir combien de temps votre patient tiendra. Mais c'est juste, je voudrais qu'on lève cette ambiguïté dans le texte.
C'est très difficile à lever.
Est-ce qu'elle est levable?
Oui, c'est ça, c'est très difficile à lever. On ne peut pas dire à quelqu'un...
François, on ne peut pas déterminer une durée générale.
Non, ça me paraît raisonnable par rapport à l'objectif du texte. Moyen terme, ça me paraît ambigu.
Par exemple, quand on prend la maladie de Charcot, par exemple, qui est un des exemples qui est souvent donné, c'est pas pareil d'être dans les 6 derniers mois ou la dernière année d'une maladie de Charcot que d'être dans un processus, par exemple, de traitement d'un cancer dont on sait peut-être que l'issue est très probablement la mort. Voilà, encore une fois, il y a une part... Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir mettre des critères. On pourra pas trouver des critères absolument parfaits en disant c'est 6 mois, il vous manque à moi. Votre espérance de vie, c'est 7, donc vous en sortez. On est dans de la matière qui est humaine, qui n'est pas simplement dans l'édiction d'une norme. Donc là, on a plus l'idée de mettre une forme de garde-fou un peu collectif. Après, effectivement, il restera peut-être une part d'incertitude. On ne pourra pas dire c'est 6 mois et pas autrement. C'est pas un
requis
permis. Vous
l'avez dit très bien sur toutes ces questions-là. Si on veut légiférer de manière acceptable pour l'ensemble de la société, le diable se loge dans les détails. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention aux détails.
Bien sûr.
C'est exactement pour cette raison, d'ailleurs, que le temps long est prévu aussi sur le... le débat lui-même, le texte...
Sans fermer pour autant le texte, parce que si on clôture trop le texte, après on rentre dans une forme de rigidité et qui rend toutes ces maladies qui sont justement des maladies qui sont évolutives, eh bien parfois des gens peuvent... toutes les maladies dégénératives, eh bien, sont coincées par un texte trop fermé.
Voilà, vous voulez dire qu'ils ne pourront plus donner leur volonté, et c'est un des sujets.
Alors,
notamment
il y a aussi le sujet de donner sa volonté, Alzheimer, effectivement, Alzheimer.
C'est ça que vous vouliez pointer. Le texte arrivera à l'Assemblée le 27 mai, hein, et les débats, évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. Le fil info, 20h41, et on parle d'Israël, avec Thibault Lefebvre, qui est à Jérusalem et qui nous attend. D'abord, fil info, Stéphane Milhomme.
Un débat important s'ouvre sur le projet de loi concernant la fin de vie. À travers lui, un rendez-vous avec tous les Français. Les mots de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. C'est le premier jour des travaux de la commission spéciale de l'Assemblée. Le texte arrivera dans l'hémicycle le 27 mai. Les élus, les Républicains, contestent que ce projet du gouvernement soit examiné en pleine campagne pour les européennes. Le pronostic vital de Kenji Girac n'est plus engagé, mais il ne sera pas en capacité de se produire vendredi prochain à Marseille. Le chanteur a été blessé ce matin par le tir d'une arme à feu à Biscarrosse dans les Landes. Il assure s'être tiré dessus tout seul, mais une enquête est bel et bien en cours. La Russie garantira sa sécurité si la Pologne accueille des armes nucléaires. Une réaction du Kremlin alors que le président polonais, dont le pays est membre de l'OTAN, évoque cette possibilité dans une interview face au déploiement par la Russie de nouvelles armes à Kaliningrad et au Bélarus voisin. Les félicitations se succèdent à destination de Sophie Adnaud. À 41 ans, elle est la deuxième Française à être choisie pour partir dans l'espace. La cosmonaute valide déjà la première phase de sa formation en Allemagne. Elle succède à Claudie Aigneret, embarquée dans la station Mir. C'était en 1996.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir de Patricia Alémonière, spécialiste des questions internationales, Jonathan Boucher-Petersen de Libération, François Ehrenwein de La Réforme. C'est une fête, c'est l'une des fêtes les plus importantes sans doute du calendrier hébraïque, Pessah, la Pâque juive, célébrée partout dans le monde. Pessah en pleine offensive israélienne à Gaza cette année et avec l'absence de 129 otages du Hamas qui seraient toujours retenus à Gaza. Ça fera 200 jours demain. À l'appel des familles, une chaise sera d'ailleurs laissé vide autour de la table lors du repas rituel ce soir. Alors c'est ce jour de Pessah que choisit le chef du renseignement militaire israélien pour démissionner, pour assumer sa responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Je salue Thibault Lefèvre, le correspondant de France Info à Jérusalem. Bonsoir Thibault.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous.
C'est le premier responsable israélien à démissionner depuis l'attaque du Hamas. Il a été poussé à la démission ?
Pas vraiment, non. Il s'appelle Aaron Ali. En fait, il avait déjà exprimé 11 jours après le massacre du 7 octobre ses responsabilités. Il avait déjà reconnu que ses services, donc le renseignement militaire, avaient failli et étaient responsables. Donc en fait, il avait déjà envisagé de démissionner. Donc c'était une surprise pour personne ici. Donc juste pour vous dire, le renseignement militaire, c'est ce qu'on appelle Aman. Ici, c'est à différencier du Shin Bet, qui est le renseignement intérieur qu'on pourrait comparer à la DGSI en France, ou le Mossad, qui serait l'équivalent de la DGSE. Donc, le renseignement militaire, c'est eux qui étaient directement en première ligne, puisque les bordures, la frontière entre Gaza et l'État d'Israël étaient sous surveillance militaire. Alors, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir suivi des alertes, parce que ce qu'on a appris au fur et à mesure des investigations et puis des enquêtes internes de l'armée, c'est que l'armée avait été alertée, que les renseignements avaient été prévenus, qu'il y avait eu des rapports, notamment un rapport qui s'appelle Jericho Wall, le mur de Jéricho, où en fait il y avait tout le déroulé de l'attaque du Hamas du 7 octobre qui avait été anticipé, et toutes ces alertes en fait n'avaient pas été suivies, elles avaient été balayées d'un revers de main. Donc c'est la première chose qu'on lui reprochait. Et puis la deuxième, c'est une trop grande confiance belle technologie, cette fameuse barrière de sécurité qui a coûté plus d'un milliard d'euros, qui contenait des capteurs de dernière génération et qui finalement n'a pas été efficace, ou en tout cas suffisante pour éviter l'attaque. Donc lui, en fait, immédiatement après le 7 octobre, a rétabli du renseignement humain avec une qui s'appelle notamment l'unité 504, avec des soldats arabophones intégrés à la population de Gaza, qui permettent de revenir, j'ai envie de dire, à du renseignement à l'ancienne. Mais c'était déjà trop tard, et finalement, il a été en effet contraint de démissionner. Alors, il part à la retraite. Hein. C'est un
38 ans de service. Ouais,
38 ans de service, oui. Tout à fait, Branche.
Patricia Lémonière, vous vouliez réagir ?
Non, enfin pas spécialement aux propos qui viennent d'être dit. Effectivement, cet homme qui était donc en fait à la tête du renseignement militaire, en fait, est un fusible, en quelque sorte. Mais il y avait, au moment où, après le 7 octobre, il y a eu deux autres personnes, hein, qui ont deux autres militaires de très haut rang, hein, dont le chef d'état-major, qui ont dit aussi, et le chef de la sécurité intérieure, qui ont aussi dit qu'ils allaient partir le moment venu. Donc, on a eu une prise de conscience dans l'armée. Puis, comme il a été dit maintenant, il y a toute cette enquête, hein, qui se déroule actuellement aussi au sein de l'armée, et les commissions vont bientôt porter leurs fruits. Mais on n'est pas encore à cette méga commission d'enquête qui devrait voir le jour, et ça, c'est pour l'après-guerre. Donc, pour l'instant, il y a une démission, il y en aura peut-être d'autres après. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'autres dans l'immédiat, parce que vraiment, Israël a les yeux tournés aujourd'hui vers d'abord cette fête religieuse, mais une fois que la fête passée, à la fin du mois, Gaza se poursuit, et on voit bien que, justement, le Premier ministre a dit que l'offensive de Rafah aurait lieu malgré les réticences et les injonctions, en quelque sorte, qui ont été faites par l'Occident, remises en cause par l'attaque iranienne, effectivement.
Injonction à nouveau, d'ailleurs.
Injonction pour ne pas attaquer Rafah. Un élément important aujourd'hui qui vient d'être paraître, c'est que le rapport indépendant sur l'UNRWA, vous savez, qui était accusé l'agence de l'ONU qui a provisionné Gaza en nourriture, eh bien, le rapport indépendant commissionné, et donc c'est Catherine Colonna, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, qui en était en charge, eh bien, vient d'être rendu. Et dans ce rapport, eh bien, Catherine Colonna dit clairement que l'UNRWA, les membres de l'UNRWA accusés d'être appartenant au Hamas par Israël, eh bien, il n'y a aucune preuve étayée de cette appartenance. Et deux autres organismes humanitaires, suédois et nordiques, eh bien, vont dans le même sens en ce qui concerne toute la littérature, l'école, vous savez, les livres scolaires. Donc, il y a actuellement un mouvement encore qui se resserre vis-à-vis d'Israël, et on va bien voir si l'UNRWA va être finalement... va recevoir de nouveau ses financements, parce que justement, c'est l'UNRWA qui approvisionne aussi en nourriture Gaza, et la situation, vous le savez, dans le Nord, est très difficile aujourd'hui.
Alors, il y a ce contexte de Gaza, et on pourra poursuivre, mais juste Thibault Lefebvre, et après on vous libère. Le contexte, c'est aussi évidemment la tension avec l'Iran, qui était notamment au cœur d'un coup de fil, et je voudrais qu'on en dise un mot, entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, qui ne s'était pas forcément parlé depuis un bon bout de temps, vous allez nous le dire. Le communiqué de l'Élysée dit que le président français a appelé Israël, mais aussi l'Iran, à la retenue. Vu d'ici, on avait pourtant le sentiment que tout le monde retenait plutôt son bras. Est-ce qu'on se trompe? Dites-nous comment est perçu ce coup de fil, et comment est relayé, relaté plutôt ce coup de fil à Jérusalem.
Alors, vous dire déjà que ça faisait un mois, en effet, que les deux chefs d'État ne s'étaient pas parlé. Quand on voit donc le communiqué de l'Élysée qui est sorti il y a une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près, en fait, on se rend compte que la discussion a été assez large, qu'en effet, il y a eu la situation avec l'Iran qui a été évoqué, comme quoi il fallait dissuader l'Iran d'agir. Il y a eu la situation au Liban avec la volonté française de repousser, de faire en sorte par la diplomatie que le Hezbollah soit repoussé au niveau du fleuve Litani, donc c'est à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne. Et il y a eu donc la situation à Gaza, la situation humanitaire évidemment qui a été évoquée, et puis Emmanuel Macron qui a demandé à ce que l'attaque, l'offensive, tout le monde parle ici sur Rafah qui est en préparation. Je vous rappelle que la ville de Khan Younes, qui est au nord de Rafah, les combats se sont arrêtés il y a quelques semaines, ce qui est censé permettre à une partie de la population et du 1,5 million de déplacés de Rafah peut-être de désengorger un peu la ville avant une éventuelle offensive. Et puis il y a deux bataillons aussi de réservistes qui ont été il y a une semaine maintenant, qui sont en train de sécuriser en fait le centre de l'enclave, et qui permet en fait aux autres bataillons, qui sont des bataillons plus expérimentés, combattants, de se reposer justement pendant la Pâque juive que vous évoquiez. Voilà, ce sont autant de signes en fait qui laissent penser que cette offensive vers Rafah pourrait se produire. Puis vous dire une dernière chose, c'est qu'Emmanuel Macron a évoqué avec Benjamin Netanyahou la sempiternelle solution à deux États. Vous savez que la France a voté il y a quelques jours pour la reconnaissance de l'État de Palestine au niveau de l'ONU et qu'en fait, l'ambassadeur de France à Tel Aviv été reçu, convoqué au ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc il y avait, j'ai envie de dire, il y avait de la brouille sur la ligne et il est évident que parmi toutes ces questions, en tout cas, cette volonté française de faire adhérer le gouvernement de Benjamin Netanyahou à cette solution à deux États était aussi au cœur de l'échange.
Merci beaucoup Thibault Lefebvre, correspondant de France Info à Jérusalem. On revient avec les informés juste après le fil info puisqu'il est 20h51. Stéphane Milhomme.
La mairie d'Albi, dans le Tarn, visée à son tour par une cyberattaque. Elle paralyse certains de ses services. Impossible de joindre les numéros de téléphone habituels, les mails, les services informatiques de la ville. L'origine est inconnue. La mairie d'Albi dépose plainte. Information de France Bleu Occitanie. Joe Biden promet à l'Ukraine d'envoyer rapidement de nouvelles aides militaires importantes. Promesse quelques jours après le vote du Congrès sur une enveloppe de près de 61 milliards de dollars. Volodymyr Zelensky remercie le président américain au téléphone pour son soutien indéfectible à l'Ukraine. Le procès de Donald Trump, il est entré dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le milliardaire est jugé dans l'affaire des paiements dissimulés pour avoir acheté le silence d'une ancienne star du X lors de son entrée à la Maison-Blanche. Le procureur l'accuse d'avoir fomenté un véritable complot en 2016. Pour l'avocat de Trump, il est totalement innocent. Et puis l'Union européenne menace de suspendre les récompenses sur la nouvelle application TikTok Lite. Et cela, dès jeudi, des points, des chèques cadeaux en échange de likes ou d'interactions sur le réseau social chinois. Bruxelles juge cette pratique addictive, notamment pour les plus jeunes, déjà très friands du réseau TikTok.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
On est en compagnie de Patricia Lémonière, spécialiste des questions internationales, Jonathan Boucher-Petersen, éditorialiste politique à Libération, François Hernenwein, responsable éditorial de l'hebdomadaire Réforme. On parle de cette situation, de cette fête finalement de Pessah, dans un contexte qui est compliqué, on l'a longuement évoqué. Est-ce que la démission du responsable israélien dont on a parlé, ce jour de Pessah, vous retenez quoi, Patricia Lémonière?
Je redis qu'on est dans un moment où tout le monde un peu justement retient son souffle, c'est le cas de le dire. Les Israéliens, le monde s'interroge pour voir effectivement si Israël, l'engrenage avec l'Iran va se poursuivre. Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Et l'autre question,
est-ce qu'on
c'est
se la
quand...
Pardon, je vous interromps, mais parce que est-ce qu'on se la pose réellement? On a aussi beaucoup souligné.
Oui, on a parlé de la retenue. On a
la retenue de part et d'autre.
De part et d'autre, mais. Cette retenue au niveau des attaques, parce que par exemple, on sait maintenant que certains drones seraient même partis d'Iran, c'est ce que laisse sous-entendre Israël. Donc, vous voyez, il y a. Mais est-ce qu'Israël va, après Pessah, continuer d'autres attaques plus importantes, plus discrètes, plus importantes, mais plus discrètes? Est-ce qu'il va y avoir une montée de la tension sur le Golan? On voit qu'aujourd'hui, il y a eu des visites sur le Golan hier, parce que Israël trouve que le Hezbollah et l'Iran, côté syrien, amassent ses positions, enfin renforcent ses positions. Donc on a deux fortes tensions, effectivement, et je crois que dans le contexte actuel, la question qu'on doit se poser, c'est quand tout cela va repartir. Cela repartira, je pense, plutôt après les fêtes. Et c'est, je pense, la grosse menace, c'est la Syrie, le Liban et bien sûr l'opération sur Rafah, qui me semble pour l'instant faire relativement peu de doutes.
Risque ou pas d'escalade, Jonathan Boucher-Petersen? Je ne vais pas vous demander de réponse définitive.
Ce sera une archive, je vais éviter de me prononcer. Non, mais en revanche, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que. À chaque fois, il y a quand même un objectif militaire qui est revendiqué par Benjamin Netanyahou pour dire c'est justifié de prendre le risque de tuer des civils parce que on est toujours dans cette idée de venger le 7. Donc c'est l'idée depuis toujours. Là, sur Rafah, a priori, on entend à peine ce discours-là. C'est-à-dire que personne, dans les commentateurs ou les experts militaires, personne dit qu'il y a un enjeu dans l'extermination ou la destruction de l'appareil militaire du Hamas d'aller taper à Rafah maintenant. Donc moi, je ne suis pas complètement sûr que ça arrive forcément. Enfin, on a l'impression que chaque jour nous en rapproche et en même temps, le lendemain nous en éloigne. C'est quand même compliqué.
Non, c'était très précis. Il y avait la pression américaine pour que ça ne se passe pas. Et la pression américaine est moindre depuis que l'attaque iranienne.
Non, mais on peut mettre les plaideurs d'accord assez facilement. Je pense que les Iraniens ont grandement servi les projets de Netanyahou.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, il y a, avant l'offensive iranienne, le monde entier pinçait le nez devant ce qui se passait à Gaza et la menace pesant sur Rafah. Depuis l'offensive iranienne, le monde entier s'est rassemblé autour d'Israël. Ils ont obtenu des millions de dollars des États-Unis en même temps que les Ukrainiens. Donc les affaires vont pas très mal pour Netanyahou. Et maintenant, je pense que même s'il faisait quelque chose à Rafah, l'indignation ne serait pas à la hauteur de ce qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu l'épisode iranien. Et c'est bien la grande défaite des Iraniens dans l'histoire. Ils ont montré le bout du nez. Ces deux puissances moyennes se disputent cet espace. Eh bien, au final, là, pour l'instant, c'est les Iraniens qui ont perdu.
Patricia, je voudrais juste votre éclairage sur les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui étaient réunis aujourd'hui, qui ont évoqué notamment l'idée de désigner comme organisation terroriste les gardiens de la Révolution.
Très rapidement, c'est une idée qui est ancienne, qui a d'abord été mise en avant par le Parlement européen et qui a voté, en somme, une espèce de résolution pour demander à l'Union européenne de prendre position et de classer les gardiens de la Révolution, cette gigantesque organisation qui n'est pas que militaire, qui est presque 70% de l'économie iranienne, et bien de classer cette organisation comme terroriste, tout comme les Américains l'avaient fait sous Trump en 2019 exactement.
Ça risque d'arriver, ça, au niveau européen ?
Oui, ça risque. Enfin, en tout cas, il y a une très forte pression pour que ça se produise. Les Français s'interrogent, mais ils n'étaient pas pour au départ. Les Allemands, ils sont très favorables. Bon, tout ça est un peu logique.
On va conclure en disant que l'Iran n'a pas la cote.
Vous avez la main, la une de la réforme, dites-nous.
Alors, on a fait une sur la fast fashion.
La fast fashion ?
Oui, pour critiquer les dérives du consumérisme
vestimentaire. Stop au gâchis vestimentaire. La une de Libé demain matin.
Nous, on fait la une sur Rachida Dati et une longue enquête qui vient mettre au jour des contrats juteux signés alors qu'elle était députée européenne avec un certain nombre d'entreprises privées, ce qui pose la question de, à minima, le conflit d'intérêts et peut-être la corruption.
À la une donc de Libération demain. Merci à tous les trois, merci à Patricia Lémonière. Je rappelle, Au cœur du chaos, c'est votre livre aux éditions Artaud. Les informés demain matin, c'est à 9h, Salia Braki et Renaud Delis. Nous, on sera là dès 20h. Bonne soirée.